Plan Large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan Large, l'encyclopédie vivante du cinéma. Aujourd'hui, R comme Romer, Éric Romer avec Carole Desbarra, Philippe Fauvel et Fernando Ganzo. Bonjour à tous, bonne année et bienvenue dans Plan Large. Pourquoi Éric Romer est-il à l'heure juste? Parce qu'il fut toujours en retard, sciemment. Écrivait déjà il y a 50 ans quand sortait Ma nuit chez Maud, le critique Michel Mardor. La rétrospective intégrale qui s'ouvre la semaine prochaine à la Cinémathèque française puis au Luxor est l'occasion pour nous de nous remettre à l'heure de celui qui a connu la joie exaltante de trouver son style dans la texture même du réel, comme l'espérait dès 1949 celui qui s'appelait encore Maurice Scherrer, le plus âgé des critiques qui allait former le noyau dur de la nouvelle vague. Ce vœu, pour ne pas dire ce programme, Éric Romer l'aura réalisé en s'appuyant sur une esthétique réaliste fondée sur une maîtrise de l'espace et du temps, tendue entre une préparation minutieuse et la recherche de l'accident, en filmant en extérieur des histoires contemporaines, en s'imprégnant de la lumière naturelle, de l'atmosphère des lieux et des personnalités de ses interprètes, notamment et particulièrement féminines, les fameuses romériennes qui peuplent et ont nourri son cinéma. Par une économie de moyens qui était à la fois affaire de morale et d'éthique de travail, Éric Romer a su créer les conditions de son indépendance et de sa liberté absolue pour dresser, en moraliste puritain qu'il était, un portrait des mœurs de la société française et de sa comédie humaine qui, loin de l'image intello-parisianiste qu'on a voulu lui coller, a su rencontrer un très large et très fervent public, 8 millions de spectateurs pour ses 25 longs métrages, sans compter ses 35 films de télévision qu'on ne cesse encore de redécouvrir. Pour nous aventurer dans les territoires du plus libre, du plus austère et du plus joyeux des cinéastes français, deux amoureux du cinéma d'Éric Romer, Carole Desbarra, autrice en particulier de deux livres sur Pauline à la plage et Contes d'été, et Philippe Fauvel, qui vient de finir sa thèse sur les films de télévision d'Éric Romer, des essais de cinéma, et qui a contribué à l'édition en DVD de ses films pour la télévision scolaire. En fin d'émission, en parlant de télévision, Fernando Ganzo, le rédacteur en chef de notre partenaire Sofilm, nous parlera de la série Cops qui, depuis 30 ans, propose aux téléspectateurs américains des descentes de police en cinéma direct, dont sont friands aussi bien Steven Spielberg que les frères Safdie. Mais pour l'heure, place au grand Momo.
Je vous téléphone parce que nous voudrions vous interviewer. Oui. Mais alors, c'est au sujet du cinéma. Oui, nous voudrions savoir ce que vous pensez du cinéma. Vous pensez bien quelque chose, vous allez bien au cinéma. Oui, voilà. Alors, d'un point de vue assez particulier, enfin, nous demandons à un certain nombre de gens qui ont des activités qui sont extra-cinématographiques, des peintres par exemple, des sculpteurs, des architectes, des musiciens, des romanciers, des gens de théâtre, leur demandons de se définir par rapport au cinéma, de situer leur art par rapport à l'art cinématographique. Oui, elle s'appellerait le celluloïde et le marbre. Le celluloïde, c'est la pellicule, c'est nous. Et le marbre, c'est le musée, c'est vous. Oui. Et on peut dire d'ailleurs que maintenant, la pellicule entre au musée et que le marbre n'est plus le marbre. Oui, c'est ça. Enfin, le cinéma, considéré comme l'art du présent, comme un art périssable, en fin de compte, n'est pas si périssable qu'on l'a dit. Et inversement, actuellement, souvent, les artistes travaillent dans le périssable avec des matériaux périssables. Et je pense que ce serait intéressant de définir le cinéma par rapport aux autres arts. Et en même temps, de cette façon, aussi, peut-être pour vous, de définir les autres arts, enfin votre art à vous, par rapport au cinéma. Il me semble que c'est quelque chose qu'on pourrait faire.
cette voix inimitable, sauf peut-être par Fabrice Luchini, c'est évidemment celle d'Éric Rohmer. On est en 1965, c'est le tout début d'un film qui s'appelle Le Celluloïde et le Marbre. Éric Rohmer vient de le dire, c'est pour la télévision, Philippe Fauvel. C'est dans le cadre de Cinéaste de notre temps, la série géniale de Jeannine Bazin et André S. Labarthe. Mais c'est déjà la reprise d'un texte que Rohmer avait publié dans les Cahiers du cinéma, 10 ans avant, en 1955, où se pose une des grandes questions que se pose le Rohmer théoricien du cinéma, c'est la place du cinéma par rapport aux autres arts. Alors là, il renverse un peu la question, puisque c'est plutôt aux artistes qu'il va demander de se positionner face au cinéma, mais peut-être un des grands apports, en tout cas ce qui a beaucoup marqué les lecteurs d'Éric Rohmer critique à l'époque, c'est cette façon de dire le cinéma ne doit pas se définir par rapport aux autres arts. Finalement, il les dépasse tous et il est ce qui permet de dire les choses autrement, d'une certaine manière, Philippe Fauvel.
En effet, le cinéma a un certain art d'appréhender, de capter la vie, en fait. Et c'est ce que Rohmer ne cesse de déclamer en tant que théoricien, en tant que critique. Pour moi, il y a trois étapes. Il est critique, il est téléaste, il est cinéaste, et il ne va faire que glisser vers le cinéma. Et ces articles critiques de 55, puis cette émission de 65, c'est intéressant ces 10 années, parce que c'est d'abord une confrontation de ses propres textes qu'il revisite face aux plasticiens, aux dramaturges, à des tas de personnes qu'il va voir sur le terrain. L'extrait que nous avons entendu, c'est lui de trois quarts d'eau, c'est une des rares images de Rohmer qu'on connaît dans son propre cinéma. Et il ouvre simplement le film comme ça, et puis après ce sont des séries d'entretiens qu'il a avec différents artistes. Cette façon de faire transcender le cinéma par rapport aux autres arts, c'est une façon de non pas de dire que les autres arts sont morts. Il ne cherche pas à mettre la littérature de côté, ni les arts plastiques. Il s'y intéresse même à la musique contemporaine. Xenakis, par exemple, Yanis Xenakis dans le film Le Celluloïde et le Marbre. Mais tout de même, il cherche à sauver sa peau de cinéaste, et encore de jeune cinéaste finalement dans les années 60. On ne l'a pas encore dit, mais c'est un des cinéastes les plus tardifs de la nouvelle vague, enfin celui qui se fait découvrir plus tardivement. Et il essaye de montrer à quel point il lui faut, pour lui-même, glisser vers le cinéma. Et en montrant que le cinéma, en effet, se détache des autres arts, c'est presque un à côté, c'est presque marginal par rapport aux autres arts. Les autres arts se sont fabriqués, l'architecture en particulier l'intéresse énormément. Pourquoi ? Parce que c'est la vie elle-même, c'est l'art que l'on pratique au quotidien. Et ben, il veut voir le cinéma comme tel, en tant que capture de cette vie que l'on pratique. Je pense à Virilio, qui est interrogé avec Claude Parent aussi dans Le Celluloïde et le Marbre, et qui parle de plans successifs dans l'architecture. C'est la même chose au cinéma. C'est des plans successifs, le plan successif des choses qui sont montrées et que Rohmer va tâcher de démontrer en permanence.
En interviewant, en rencontrant des artistes contemporains, c'est aussi une manière pour Éric Rohmer de se poser la question du moderne, qui sera aussi le grand débat critique de l'époque. Rohmer va défendre le classicisme au cinéma, mais pas sur une vision passéiste, Carole Desbarra, mais en disant que le classicisme, finalement, il n'y a rien de plus moderne. Le classicisme, je le cite, n'est pas en arrière, il est en avant.
Vous me prenez la citation.
J'avais regardé
vos notes. Non, c'est certain. Mais ce qu'il y a de caractéristique, c'est que il ne se prive ni de l'un ni de l'autre. C'est-à-dire qu'effectivement, son travail de mise en scène dont on parlera, j'imagine, qui est directement hérité du classicisme, ne se prive pas de se nourrir de la musique contemporaine. Vous parliez de Xenakis, on peut parler de certaines musiques dans ses films qui sont effectivement strictement contemporaines de l'époque à laquelle il est filmé. Je pense au Signe du Lion, par exemple. Il ne se prive pas de la connaissance de l'architecture. Enfin, c'est quand même quelqu'un qui a filmé Marne-la-Vallée, Sergi Pontoise.
Ça, on va y venir aussi.
Où ces villes arrivent. Donc, il est à la fois nourri du monde extérieur et nourri des autres arts. Et alors, c'est vrai que ce que disait Philippe Fauvel, c'est-à-dire qu'il cherche à définir cette spécificité sans dire que le cinéma est supérieur. Ça n'est plus son problème, parce que justement, pour lui, le cinéma est un art. Donc, il est à équivalence avec les autres. Il n'est point besoin de le mettre en position numéro un. En revanche, ce qu'il nous a apporté, que ce soit dans Le goût de la beauté, dans ses textes, ou qu'on le retrouve, par exemple, dit explicitement dans tous ses travaux pédagogiques pour l'Institut National Pédagogique, c'est l'idée que le cinéma ne dit pas autrement les choses, ce qui est l'asservir à l'ordre hiérarchique, académique des arts, mais il dit autre chose. Et il passe son temps à dire et à redire ça. Il le dit autrement, il dit « le cinéma montre ». Hein, effectivement. Et il est avec Godard celui qui aura le plus lutté sur cette spécificité par rapport aux autres arts.
Vous êtes né sous le signe du lion ?
Oui.
Moi aussi.
Ah, c'est merveilleux. C'est le signe le plus noble. Le signe des conquérants. Le soleil le gouverne. Oui. Et toi, je crois, le Verseau ?
Oui.
Hein ?
C'est bien ?
Oui, tout est bien ou mal, selon que les conjonctions des astres dans le signe sont maléfiques ou bénéfiques. Comme ça, on s'y retrouve toujours. Il ne faut pas tenir compte seulement du mois, mais aussi de l'heure de la naissance.
Yes, yes, yes.
Le soleil gouverne mon signe, mais Vénus est mon étoile. Les astrologues disent la seconde planète gouvernante, ou encore l'ascendant.
Ah, je ne te croyais pas si calé, si superstitieux.
Mes chers amis, ne plaisantez pas. L'astrologie est la science la plus ancienne et la plus exacte de toutes. Je dis bien toutes. Et profondément, je la révère. Tu vois. Et j'ai une idée. J'ai une idée.
Ah, non, 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 oui, pas
oui,
de
oui.
Joie.
Oui,
fais attention.
Vous allez voir. Je vais saluer Vénus à ma manière. À la manière d'un lion. Parce que le lion aime Vénus. Et Vénus aime le lion.
Pierre, tu es fou, tu vas voir des histoires, la police est en face.
Les flics, je m'en fous, je suis riche, je paierai les amendes, non?
Tu ne vas pas tirer sur l'étoile, non?
Non, j'ai mieux.
Ah! On a entendu, c'est évidemment le signe du lion, pas exactement le premier long métrage d'Éric Rohmer, puisqu'il y a ce film fantasmé que personne ne verra jamais, sauf si un jour il réémerge des limbes d'une cinémathèque ou d'un laboratoire. C'était Les petites filles modèles dès 1952, donc c'est lui le premier réalisateur de la nouvelle vague. Mais le film, voilà, pour des raisons de production, et sans doute parce que Rohmer n'en était pas très 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 fier, on ne le verra jamais. Et puis ce film, Le signe du lion, qui est tourné en 1959, ne sort qu'en 1962, donc bien après les débuts de la nouvelle vague. La nouvelle vague commence à refluer, le film est très mal compris, il fait je crois 5000 entrées à Paris, enfin c'est un désastre à la fois dans la réception publique et critique. Et vous disiez, Carole Desbarra, que le cinéma doit montrer, et là pour le coup il montre, c'est-à-dire c'est un film extrêmement behavioriste, et on lui reprochera d'ailleurs à l'époque ces longues séquences d'appels téléphoniques, on fait les numéros jusqu'au bout, et puis ces errances dans Paris qui lasseront très vite le spectateur, alors que quand on le revoit aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus bouleversant sans doute.
Oui, on voit Paris tel que nous ne le connaissons pas. Mais ce qui est aussi bouleversant, c'est cet homme seul et pauvre et dans la misère, en attendant un pactole qui devrait arriver et qui arrive. Et cette façon qu'a Rohmer de montrer les astuces de qui doit vivre avec même pas un ticket de métro, puisque c'est le cas du personnage.
Ou du drame de se renverser une boîte de sardines sur le pantalon.
Ah, dramatique, il faut expliquer, pour ceux qui n'auraient pas vu le film, qu'ensuite il faut suspendre le pantalon dont on aura lavé la tache, et s'asseoir à côté pour attendre que le pantalon sèche, puisqu'il n'y a rien d'autre à se mettre. C'est très intéressant de voir le signe d'union quand on a vu d'autres films. Quand on a commencé par les films solaires, les Paulina à la plage, les collectionneuses, etc., voir le signe du lion, c'est très révélateur. On a l'impression que Rohmer a jeté sa gourme. C'est-à-dire qu'il a fait ce premier film exactement à l'inverse de tout ce qu'il va faire après. Non seulement parce que c'est du noir et blanc, mais ça pourrait être l'époque, mais surtout parce que c'est un film dans lequel on ne parle pas. Le personnage que l'on vient d'entendre là dans une logorée va s'enfoncer au fur et à mesure de l'avancée du film et de sa pauvreté dans un silence qui étonne le romérien spectateur fanatique du Babil de ces jeunes femmes. Et c'est un film extrêmement noir, qui est probablement inspiré de l'expérience vécue par Paul Jégoff, qui était aux côtés de Romère à cette époque-là. Paul Jégoff ayant vécu une espèce de renversement de situation financière, qui l'a mis dans une situation où il s'est battu contre les éléments, la pauvreté, la misère, et il a dû survivre pendant quelques jours.
Il m'a inspiré sans doute aussi de la propre bohème germano-pratine d'Éric Romère, de sa jeunesse désargentée au quartier latin.
Je pense que l'histoire du pantalon et de la boîte de sardines vient de là.
Mais il y a aussi, et je parlais tout à l'heure de ce programme que s'était donné Romère en 1949, hein, trouver son style dans la texture même du réel. Il y a ces moments presque d'indécision pour le spectateur entre une part documentaire, un accident organisé. Je pense notamment au moment où le héros malheureux du film tente de voler une boîte de gâteaux au marché Mouffetard et ça provoque une quasi-émeute dont on a l'impression qu'elle est observée par Romère qui l'a organisée.
Oui, et Carole Desbarra disait qu'il est de plus en plus silencieux, ce Pierre, cet anti-héros du film du Signe du Lion. Et il vient buter sur des pierres, justement, en permanence. Et toute entreprise va prendre des proportions folles, parce qu'il n'y a plus de place au dialogue, en effet, et tout est dans l'action. C'est souvent ce qu'on a reproché dans le cinéma de Romère par la suite, c'est-à-dire que ça parle trop, c'est pour les détracteurs, en tout cas. Alors, moi, ce film, c'est Carole le disait très bien, moi, je l'ai découvert après les films solaires, etc. J'ai découvert sur le tard, entre guillemets. Et j'étais stupéfait de découvrir un film que j'estime énormément. Parce qu'en effet, je pense qu'il dit quelque chose d'une époque. Ça, c'est certain. Sans doute de Romère aussi. Là, qu'importe la part biographique de la chose, je pense. Mais tout de même, ça dit quelque chose de l'après-guerre et d'une situation qui, là, par contre, est renouvelé en permanence dans le cinéma de Romère, c'est sous le signe de, c'est-à-dire la bonne étoile de quelqu'un ou de quelque chose.
Oui, la question du destin et du hasard traverse
exactement,
toute sa filmographie.
Exactement, qui ne cesse de jouer. Il y a La place de l'étoile, ce sont des titres, mais Les nuits de la pleine lune, donc il y a Le rayon vert, évidemment. Donc il y a des signes comme ça.
La crêperie à la bonne étoile du conte d'été.
Il y a une succession comme ça. Et la promenade du clair de lune, en effet, à Dinard. Donc il y a une succession comme ça de mots auxquels s'attache aussi auxquels s'attache Romère et qui sont en effet des signes dans son cinéma et dans l'écriture même de ses récits. Une chose à préciser tout de même, on ne l'a pas dit, mais c'est la part auteur de Romère. C'est peut-être oui, c'est sans doute le seul à avoir intégralement écrit tous ses films, tout de même. À part les adaptations, évidemment, mais c'est très rare. Alors que la notion d'auteur était évidemment importante pour tout le monde au sein des cahiers du cinéma dans les années 50 et jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a à travers le personnage de Pierre, pour moi, quelque chose de... Sans trop jouer sur les mots, mais c'est la pierre angulaire pour moi du cinéma de Romère, c'est-à-dire quelque chose qui vient buter sur les choses, sur les êtres et sur les choses, et en même temps avec cette raréfaction de la parole, ce qui est très surprenant dans son cinéma.
Raréfaction de la parole en 1959, 10 ans après, on parlera beaucoup plus.
Si demain, si ce soir, une femme, aussi belle que Maude, merci, et riche de tempérament, te proposèrent, enfin te faisaient sentir.
Arrête, tu n'es pas drôle.
Mais laisse-moi finir. Si Maude.
Il est complètement sourd. C'est le chanteur que vous ne croyez pas.
Répondez quand même.
Disons autrefois, oui. Maintenant, non.
Pourquoi?
Je te l'ai dit, je me suis converti.
Oh.
La conversion, ça existe. Voir Pascal.
Je suis peut-être indiscret. Mais je me flatte d'avoir pas mal d'intuition. Cette conversion me paraît très, 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 très louche. Je trouvais qu'il avait quelque chose de bizarre dans son comportement. Il a des moments d'absence, de rêverie. Comme s'il pensait à quelqu'un. Pas à quelque chose. À quelqu'un. Il serait amoureux, ça ne m'étonnerait pas.
Première nouvelle.
Elle est brune ou blonde?
Je crois qu'il les préfère blonde.
Dites quoi, ça n'est pas compromettant.
Non, vous dis-je.
Dites. En échange, je vous raconterai ma vie.
Ça menace d'être long.
On fera plusieurs séances.
Je ne connais personne, je n'aime personne, un point c'est tout.
Elle est à Clermont?
Non.
Il a dit non. Si elle n'est pas ici, c'est qu'elle existe.
Non, j'ai dit non, qu'elle n'existe pas. Et puis même si elle existait, c'est bien mon droit de ne rien vous dire d'elle.
On est méchant, tu sais.
Non. Non, non, ça m'amuse. Ça m'amuse même beaucoup plus que vous ne pensez.
Beau trio, très musical, hein, on l'entend dans cet extrait de Ma nuit chez Maud, évidemment, Françoise Fabian, Antoine Vitez, Jean-Louis Trintignant. Là, c'est le début de la reconnaissance. Critique, c'était déjà un peu fait, mais en tout cas public pour Éric Rohmer, hein, je crois. Un million d'entrées en 1969 pour Ma nuit chez Maud. Et ça vient clore une période un peu difficile sur le plan cinématographique pour Rohmer, puisque c'est surtout à la télévision. Nous y voilà, Philippe Fauvel, qu'il va exercer ses talents, puisqu'il s'est fait virer des cahiers du cinéma en 1962. Le Signe du Lion est un échec. Enfin, il faut manger, et il va manger à la télévision. Il vieille. Y expérimenter beaucoup de choses qui vont servir dans son cinéma. C'est ça qui est passionnant quand on découvre ses films de télévision. Et par exemple, si on veut retrouver des sources à Ma nuit chez Maud, il y a un film de télévision qui s'appelle Entretien sur Pascal. Il va filmer une controverse entre un linguiste athée et un père dominicain qu'on retrouve quasiment tel quel dans la fameuse scène de café, la discussion sur le Paris pascalien entre Antoine Vitez et Jean-Louis Trintignant, Philippe Fauvel.
Avec un paradoxe pour moi ici, c'est que l'entretien sur Pascal, l'émission pédagogique, est presque imbitable comparé au dialogue qui est repris dans Ma nuit chez Maud.
Vous pouvez dire imbitable sur France Culture.
C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a, c'est vraiment la forme de l'entretien entre un père du bar, comme vous l'avez dit, et puis Brice Parrain, donc le philosophe, et on ne voit pas bien où ils veulent en venir sur Pascal. C'est-à-dire qu'on s'y perd complètement. Les questions de Rohmer nous perdent d'emblée dans l'émission pédagogique. Et personnellement, je me demande ce que des lycéens pouvaient bien saisir, hein, à travers des pensées ou des provinciales, par exemple, de la pensée de Pascal à travers cette émission. Dans Ma nuit chez Maud, par contre, c'est exemplaire. C'est-à-dire que le Paris est explicité deux fois dans le film. On y revient. On a dès le début finalement le pari, c'est-à-dire miser tout sur une jeune femme croisée à la messe et dire que ce sera pour le personnage de Jean-Louis campé par Trintignant, que ce sera sa femme, hein, il décide que ce sera sa femme. On aura ça dans Le beau mariage beaucoup plus tard avec Béatrice Roman. Il faut que je me marie, hein, c'est pas c'est je dois me marier et non pas je veux me marier, mais je dois me marier, et elle va jeter son dévolu sur un homme. Cette idée-là de Paris, liée au hasard aussi qu'on évoquait tout à l'heure, qui est absolument fascinant dans tous les films, et en particulier dans les contes moraux, dans les comédies et proverbes, et finalement aussi même dans toutes les séries, en fait, dans les contes des quatre saisons.
Voilà, parce que je l'ai pas précisé, Ma nuit chez Maud, c'est le tome 3 des 6 contes moraux d'Éric Rohmer, avec ce côté fascinant chez Rohmer de s'imposer des cycles qui sont autant de faux-semblants, sans doute, pour se donner une liberté totale, et avec cette façon, puisqu'on lui reproche justement à l'époque que ses films sont très bavards, il va expliquer Carole Lesbara, encore une fois, montrer que lui, il montre des gens qui parlent, mais c'est pas le dialogue qui doit faire avancer, l'action d'une certaine manière. Et d'ailleurs, c'est le sujet même des contes moraux, c'est comment des gens se mentent à eux-mêmes et ou en tout cas essayent d'habiller leurs doutes, leur indécision par de grandes phrases. C'est ce que fait beaucoup Jean-Louis Trintignant dans le film.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est le dialogue, c'est l'action. C'est l'action au sens incarné, c'est-à-dire que ce ne sont pas simplement des propos, et c'est vraiment très frappant ce que disait Philippe Fauvel, ces mêmes propos qui étaient insupportables, France Culture, dans l'émission documentaire, deviennent là totalement des éléments qui traversent le corps. Moi, il faut replacer aussi ce film à l'époque. Les jeunes femmes qui ont vu ce film en 69, je peux vous dire qu'elles ont pris une gifle, je parle de moi bien évidemment, extraordinaire quand Maud, épuisée par cette nuit de palabres qui ne se conclut pas sexuellement, se lève, se précipite vers...
Scène qui dure trois quarts d'heure dans le film,
oui, faut quand même le préciser. C'est magnifique, et de parole justement. Se lève, va vers la salle de bain et claque la porte au nez de Jean-Louis Trintignant en lui disant « J'aime les gens qui savent ce qu'ils veulent ». Je veux dire que pour beaucoup de jeunes femmes de ma génération, ça a été un modèle. Cette possibilité de dire « je vis cela, mon désir est là, c'est comme ça que je vais le faire et je suis capable de refuser ». Et à la fois, il y a bien sûr tout ce travail sur le texte qui fait passer la pensée de Pascal et ce que vous disiez, Antoine, la fascination pour le choix, le hasard, dont on aura, j'imagine, à reparler, qui est porté par la référence pascalienne, mais pas uniquement, qui est porté par la narration dans ce film ainsi que dans les autres. Et puis il y a aussi toute la force de ce que ces corps, celui de Françoise Fabian, magnifique, transporte Françoise Fabian sur son lit, recroquevillée sur elle-même, disant à Jean-Louis Trintignant à propos du fait que l'homme qu'elle aimait a eu un accident, et c'est ce qui prouve que je n'ai jamais eu de chance. J'ai honte de le dire, mais sa voix à ce moment-là est absolument bouleversante, ainsi que son corps, parce qu'il y a en très peu de choses et avec beaucoup de pudeur le malheur de toute une vie qui est donné en 3 secondes.
N'ayez pas honte de le dire, Carole Desbarra. Alors Maud n'aime pas les gens, Maud aime les gens qui savent ce qu'ils veulent, mais Éric Rohmer, lui, il aime bien les gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent.
Oui.
La banlieue me déprime. Je comprends pas comment t'as pu aller t'enterrer là-bas.
C'est que Rémi, il a trouvé une situation très bien à la mission d'aménagement de la ville nouvelle.
Je pourrais m'asseoir.
J'aurais dû y penser.
Les villes nouvelles, j'y crois pas.
Lui, il y croit.
Il aurait pu habiter Paris.
Non, tu sais bien, c'est 2 fois plus cher. Et puis, pense qu'il faut habiter sur les lieux, c'est plus franc.
S'il construisait une prison, il y habiterait sur les lieux?
Je le crains, c'est assez dans son style.
Et tu le suivrais?
Tu vois, même maintenant, je ne l'ai pas vraiment suivi. J'ai gardé cette chambre et j'y ai laissé quasiment toutes mes affaires.
Justement, où est-ce que tu vas les mettre maintenant?
Maintenant?
Quand t'auras loué.
Mais je veux plus louer.
Alors tu repas pour qui?
Pour moi. J'ai besoin d'un pied-à-terre.
Oh là 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 là, c'est dangereux ça.
Peut-être, mais tu sais, j'ai pris mes précautions. T'es là ce soir parce que c'est pas encore fait, mais après pas question ni pour toi ni pour un autre de venir ici. J'ai besoin d'être seule de temps en temps, vraiment seule.
Merveilleuse Pascal Augier dans Les Nuits de la Pleine Lune avec Fabrice Lucchini, évidemment. Alors, on entend beaucoup de choses dans cet extrait, mais notamment l'intérêt pour les villes nouvelles. Les villes nouvelles, Fabrice Lucchini n'y croit pas. Éric Rohmer, lui, ça l'intéresse beaucoup. Philippe Fauvel, il va y consacrer nombre de films pour la télévision. Et puis, il va y filmer, ici c'est Marne-la-Vallée, mais dans L'ami de mon ami, ce sera Sergi Pontoise. Hein, vous l'aviez dit tout à l'heure, Carole Desbarra. Qu'est-ce qui l'intéresse tant dans les villes nouvelles?
Je crois en priorité de ne pas casser tout Paris, le centre, l'intramuros, et donc de l'agrandir.
C'est l'anti Le Corbusier pour ça.
Voilà, exactement. D'ailleurs, il disait de Le Corbusier que c'était son ennemi intime, surtout à cause du plan voisin et des tours cruciformes. L'idée est en effet de plutôt agrandir, prolonger Paris, plutôt que de détruire les monuments historiques dans Paris même. Il s'y intéresse, je crois qu'il s'intéresse foncièrement aux formes architecturales et à ce que Beaufils va proposer par exemple à Sergi Pontoise, et il va le filmer dans L'ami de mon ami. C'est exemplaire ce qu'il fait dans L'ami de mon ami, puisque il va vraiment, alors que le bâtiment vient d'être fraîchement construit, il va, c'est presque comme un appartement témoin qu'on visite avec notre héroïne blanche dans le film. Donc c'est le point de vue qu'il peut avoir. La pelouse n'a pas encore poussé sur les terres devant le bâtiment, quoi. C'est notable dans le film. Donc il veut voir comment une société peut se poser là, concrètement, dans une ville dite nouvelle, et savoir ce qu'on peut, comment peuvent évoluer les choses dans les rapports humains, ici amoureux, hein, on le voit dans le cas de cet échange qu'on a eu entre Octave et Louise. Octave, il trouve que c'est dangereux d'avoir 2 appartements parce qu'il est jaloux d'abord, parce qu'il est amoureux de Louise. Donc c'est d'abord
et puis
parce
qu'il connaît peut-être le pseudo-proverbe champenois voilà. Qui dit que qui a 2 femmes perd son âme, qui a 2 maisons perd sa raison.
Exactement. Donc l'enjeu est là. Et les maisons sont nombreuses chez Romer. Il y a souvent des triangles, hein, si on dessine d'un point de vue topographique, strictement topographique, le schéma des déplacements des personnages. On a ça dans le conte d'automne, dans le conte d'été. Il y a des tas de lieux comme ça qui sont soit seulement nommés, soit visités, et qui vont jouer leur rôle concret dans le récit. Donc, qui a deux maisons perd sa raison, ça joue dans Conte de printemps également, par exemple. L'héroïne est en déplacement permanent dans des lieux qui ne sont pas les siens, où elle n'est jamais chez elle.
Bah, l'héroïne, vous avez prononcé le mot, parce que je disais merveilleuse Pascal Augier, il y a cette confusion qu'on a toujours comme spectateur quand on regarde un film de Romer, et notamment les fameuses romériennes, c'est qu'on ne sait plus où est la réalité du personnage et celle de l'actrice qui l'a presque généré. Si c'était pas Pascal Augier qui avait joué dans ce film ne serait évidemment pas ce qu'il est, mais le personnage ne le serait pas non plus. Quelle est cette façon de Romer de presque vampiriser ses actrices? Je crois que c'est Chabrol qui le décrivait comme un Nosferatu dès leurs premières années au Cahier du cinéma, mais il y a ce rapport-là aussi, Carole Zabarin.
Vampiriser n'est certainement pas ce que disent ces jeunes femmes. J'ai eu l'occasion de parler plusieurs fois avec Amanda Langlais et aussi avec Ariel Dombal, et Amanda est très claire, elle dit... Il m'emmenait prendre le thé, il m'emmenait au musée, on parlait de beaucoup de choses, sauf du film. Et c'est certain que quelque chose de moi s'est retrouvé, que ce soit d'une certaine manière dans Pauline à la plage ou bien dans Conte d'été. Et il se sert effectivement, il se nourrit. Alors, je sais, si vous le dites en négatif, ça fait vampiriser. Mais il se nourrit.
Il peut y avoir quelque chose de très symbiotique dans l'acte vampirique.
C'est assez... platonique, en tout cas, ça c'est assez certain.
Le secret, c'est la chasteté, hein, dira voilà. Toujours Éric Romer.
Voilà. Et cette façon de regarder, comment dire, cette actrice, d'une certaine manière, c'est pour moi la même chose que de regarder Les Villes Nouvelles. C'est-à-dire qu'il a un côté sismographe, Romer. Il sent ce qui est en train de se produire dans la personne d'une jeune femme, dans une ville qui surgit, c'est-à-dire cette façon dont le monde évolue, et les jeunes femmes aussi. Et c'est vrai que quand on voit les différentes héroïnes, pour en revenir à votre question, de Romer, on voit des jeunes femmes d'époques différentes. Et Pascal Augier, elle est magnifiquement la jeune femme des années 80, qui correspond, dans les années 80, cette décennie correspond à un reflux du féminisme très très militant des années 70, et un retour de ce qu'on appelle la féminité. Et elle est effectivement délicieusement préoccupée de chiffon, de peinture, d'intérieur, mais en même temps tellement profonde. C'est-à-dire que ce n'est en aucun cas pour moi une façon de diminuer ce personnage que de dire qu'elle s'intéresse à l'ordinaire des choses. Et elle est totalement différente de Maud, elle le sera des autres héroïnes. Ce qui est très frappant, c'est ce qui est arrivé à beaucoup des actrices, et ça c'est très triste. Beaucoup des actrices de Romer, lorsqu'elles ont débuté avec lui, elles, en général, elles n'ont pas eu de carrière autrement. C'est par exemple ce qui est le gâchis de ce talent extraordinaire d'Amanda Langlais. C'est très dommage. En revanche, lorsqu'elles ont commencé autrement, je pense par exemple à Ariel Dombal, elles ont continué une carrière. Mais parce qu'elles sont tellement marquées par ces personnages que du coup, d'autres cinéastes ont un petit peu peur, sauf à être fanatique de Romer, ce qui peut aussi entraîner un piège pour un artiste que de prendre un modèle chez un maître, eh bien, elles se sont trouvées un petit peu démunies. Mais elles parlent à chaque fois de la personne qu'elles sont, ce que Romer leur a pris dans leur syntaxe, dans leur rythme de parole. Avec Rosette, c'est évident, Rosette qui a un accent du Nord soigneusement travaillé, de leur parole, mais de leur époque aussi, effectivement.
M'appelle la Christiane. J'aime le vent, j'aime la houle. Je vends la mer comme la foule. La foule, la foule.
Vite mon joli bateau, il ne sera jamais trop tôt pour voguer vers San Francisco en passant par Valparaiso. Et gagner les allées houtiennes en traversant les mers indiennes. Il faut que j'aille au bout du monde, savoir si la terre est ronde.
marche légère comme un signe, un signe, un signe.
Vite, vite, comme celui du bateau, il ne sera jamais trop tôt pour voguer vers San Francisco en passant par Valparaiso et gagner les allées ou chaînes en traversant les mers indiennes. Il faut que j'aille au bout du monde pour savoir si.
Voilà, si ça vous reste pas dans la tête toute la journée, voire toute la semaine, c'est qu'on aura raté notre coup. C'est le conte des quatre saisons numéro 3, conte d'été, Éric Rohmer en 1995. Ce qu'on sait moins, c'est que c'est une chanson composée par un certain Sébastien Herms. Carole Desbarra, vous nous dites qui c'est, ce mystérieux Sébastien Herms?
ER pour Éric Rohmer et MS pour Marie Stephen, la monteuse d'Éric Rohmer.
La musique chez Éric Rohmer? On a l'impression que tous les extraits qu'on a passés étaient déjà musicaux avant même qu'on entende celui-là.
Oui. Vous parliez, Philippe Fauvel, et vous-même d'un trio de voix pendant Manu Méchémaud, c'est certain. Oui, elle est extrêmement présente, mais en même temps, si j'ose dire pour la musique, invisible. Je veux dire par là que comme la mise
mais
en
comme
scène...
comme toutes les structures de Rohmer, hein, les comédies et proverbes, c'était fondé sur le théâtre, mais il ne fallait surtout pas le voir, par exemple.
Non, voilà, exactement. Et à la fois la musique, elle est dans le rythme, dans la façon dont le montage est conçu, mais elle est explicitement audible, composée pour les films. Par exemple, pour Le Signe du Lion, il y a une commande qui a été passée à la manière de Bartok. Bon, mais aussi avec des moments, je me souviens de la fête dans, enfin la boîte de nuit dans, pardon, aidez-moi.
Dans les nuits de la pleine lune.
Oui, voilà, dans les nuits de la pleine lune, on a aussi une musique très contemporaine.
Il y a Jacquenot.
Voilà, et que apparemment c'est Pascal Augier qui a fait connaître, bien sûr, à Éric Rohmer, ses musiciens, ses... Et elle est à la fois forte, mais comment dire, il faut faire un effort pour, sauf là. Pour l'entendre d'une certaine manière. Elle participe de tous les éléments de la mise en scène.
Et les éléments de la mise en scène sont... Ça m'a frappé en revoyant ce film que je revois régulièrement et que j'aime de plus en plus. Ça fait partie de ces films que je n'ai pas aimé quand je les ai découverts. Je me souviens que c'était au Festival de Cannes. Il me semble que ça faisait la clôture d'un certain regard. J'ai pas trop aimé le film. Et de revision en revision, il commence à m'habiter. C'est très curieux. Et ce qui est très frappant quand on voit ce film, c'est que c'est quand même tourné sur une plage. C'est tourné sur une plage avec donc des centaines, voire des milliers de personnes sur cette plage. Et on a l'impression que ce sont tous soit d'excellents figurants, soit qu'ils ne se rendent compte de rien. C'est le cinéma de la ruse, du secret, du tournage caché, Philippe Fauvel.
Ah oui, ce n'est pas une impression, c'est-à-dire qu'il n'avait pas besoin d'autorisation, en quelque façon, pour tourner sur les plages de Dinard, de Saint-Lunaire, même à Saint-Malo. Et il posait la caméra là où il le souhaitait. Alors il y a une dolly hein, sur à marée basse à Saint-Lunaire, par exemple. Donc il y a un petit dispositif, mais tout le monde mettait du sien. Les acteurs portent le matériel. On voit ça très bien dans La Fabrique du Comte d'été, hein, qui est un film.
Le film de Jean Dreyfuski et Françoise Etchegaray.
Exactement. Et donc on voit que tout le monde s'affaire autour de ce projet commun. C'est du cinéma comme malheureusement on le fait très peu, je crois, encore aujourd'hui. C'est-à-dire de pouvoir réunir une toute petite équipe, hein, réduite vraiment au minimum, pour profiter des paysages bretons de la Côte d'Émeraude ici. Ce que je veux préciser par rapport à la musique, en plus de ce qu'a dit Carole, c'est qu'on est en 95. Et il vient d'écrire de Mozart en Beethoven un essai sur la profondeur. Et la musique revient avec force dans son esprit. Et en effet, c'est le premier film avec un peu Le Rayon Vert et Le Signe du Lion. C'est le premier film qui parle de la composition d'une chanson qu'il a co-composée lui-même.
Qui est presque une métaphore du tournage du film qu'on est en train de voir.
Oui, exactement. Et donc ça commence par le sifflement, hein, le générique d'ouverture, sifflement de cet air, et puis on arrive quasiment à la fin, à la version finale de la chanson que Melville Poupeau, Gaspard, le héros du film, a écrite. Et l'usage de la musique est en effet particulier, il ne souhaite pas utiliser de musique de film en général, ce n'est pas un coussin sonore, il ne faut pas faire n'importe quoi avec la musique de film, mais si elle peut structurer en plus le récit, et c'est ce qu'il propose là, c'est de bon aloi. Et précision, donc son essai sur la profondeur démontre cela aussi. Et il parle beaucoup, par exemple, du fait d'entendre de la musique dans les supermarchés. Il va défendre aussi des cinéastes pour l'usage de leur musique, Godard en particulier, même s'il triture l'équateur de Beethoven, etc. Donc il est très intéressé par cette question, pour reprendre aussi le Cellule de le marbre 40 ans plus tôt.
Les révolutionnaires ne sont pas des sauvages. Mais si vous n'avez personne de caché chez vous, il n'y a pas lieu de vous alarmer. Mais par malheur, si vous en aviez, je craindrais que votre position ne fût fort dangereuse.
Non, je n'ai pas été assez heureuse pour sauver quelqu'un dans cette horrible nuit. Mais sachez-le, j'aurais désiré que cela pût être, même au péril de ma vie. Oh, si ces scènes effroyables pouvaient guérir les amateurs de cette hideuse révolution.
Ce sont en effet terribles. Mais dans toutes les révolutions, on a toujours versé beaucoup de sang. Et une fois commencé, on ne peut plus les arrêter quand on veut.
Mais on n'a rien commis d'aussi atroce de ce que j'ai vu en rentrant de Meudon hier après-midi. La tête de Madame de Lamballe, portée au bout d'une pique par une population en délire.
Je l'ai vue aussi. On m'a apporté la tête de mon infortunée belle-sœur au palais royal pendant mon dîner. Cette horreur est sans excuse. Que lui reprochait-on? Oh, autant j'aime peu la reine, autant j'avais une vive affection pour elle. Même, vous ne me croyez pas.
Si, je vous crois. Et je crois que vous avez tout fait pour empêcher ces assassinats et que vous n'avez pas pu. Vous croyez mener la révolution, mais c'est elle qui vous mène où vous n'avez jamais voulu aller.
Oui, c'est vrai. Mais il faut voir plus loin. La révolution sera très bonne et très utile pour nos enfants. Mais c'est une chose terrible pour nous qui en sommes les témoins.
On n'aura pas le temps de disserter ici, dans Plan Large, sur France Culture, sur le positionnement politique d'Éric Rohmer face à la Révolution française et à sa façon de figurer des foules haineuses, comme dit l'autre. Ce qui est passionnant, évidemment, dans ce film, c'est son côté proprement révolutionnaire, esthétiquement parlant, c'est-à-dire cette figuration du Paris révolutionnaire, des perspectives urbaines par des toiles peintes dans lesquelles les personnages vont être incrustés. Il y a une vraie relation étonnante, je trouve, d'Éric Rohmer à la peinture. Je voulais que la réalité devienne tableau, dira-t-il dans ce film. Ça renvoie à un texte qu'il avait écrit, je crois que c'était son premier texte dans les cahiers du cinéma, Vanité que la peinture. Et cette peinture, elle sera très fréquente dans ce film, mais de manière aussi discrète que vous le disiez tout à l'heure, Carole Desbarra. Les toiles de Mondrian, que n'appréciait pas trop, je crois, Éric Rohmer dans Les Nuits de la Pleine Lune, donnent aussi l'esthétique générale du film avec ses aplats de couleurs sur fond noir. La blouse romaine de le tableau de Matisse dans Pauline à la plage infuse comme ça le film, mais de manière très discrète, Carole Desbarra.
Oui, c'est sûr, mais il me semble que ce qui est encore plus frappant, c'est qu'on est en 2002. Et que cet homme qui a au moins, alors quel âge, il a 80 ans.
On est en 2000, hein,
2000
et le film sort en 2001.
Voilà, c'est ça, en 2000, donc il a autour de 80 ans, mm-hmm. Je ne suis pas précise, mais cet homme-là décide de tourner en numérique, là où l'industrie cinématographique française est loin, loin d'avoir généralisé le numérique, et il prend ce risque-là. Et c'est extraordinaire parce que la peinture ici, elle est traitée de manière numérique. Donc on a un homme qui pourrait sembler un vieil homme, qui prend ce qu'il y a de plus neuf, on retrouve l'idée de sismographe, et pour l'utiliser dans sa mise en scène. Il me semble simplement que ça se voit plus que dans d'autres films, c'est peut-être pour ça que personnellement je suis moins attachée à ce film-là. Mais là, de l'avoir entendu à la radio, je me dis mais cet incroyable son, j'ai entendu distinctement, je pourrais dire que c'est du taffeta. Le son de la robe, le froissement de la robe que nous avons entendu. J'ai oublié qui était l'ingénieur du son de ce film-là, mais Pascal Ribier aussi, qui a suivi effectivement Rohmer. C'est magnifique de faire ça. C'est-à-dire à la fois le plus artisanal, que souvenons-nous qu'en fait il est allé chercher auprès de Jean-Pierre Rue, le regretté Jean-Pierre Rue, qui avait fait La Rosière de Pessac, cette idée du son direct, mais vraiment dans les années, fin des années 60. Il le mène en même temps dans les années 2000 avec la technologie la plus pointue.
Et avec cette façon, avec la technologie la plus pointue, de revenir aux origines même du cinéma, enfin même du pré-cinéma. C'est-à-dire qu'il y a un côté lanterne magique dans ce qu'on voit, sans parler de retrouver le geste de Griffith quand il va filmer la Révolution française devant des toiles peintes ou d'Abel Gance. Il y a ce retour aux origines, l'alliance permanente chez Romère du classique et du moderne, là encore Philippe Fauvel.
C'est vrai, et il y a quelque chose dans ce film de particulier, et qui renvoie pour moi à certains films pédagogiques, par exemple, avec les illustrations en banc-titre, par exemple, de miniatures ou des choses comme ça. C'est que ce sont des incrustations, comme vous l'avez dit, dans l'étoile peinte. C'est pour ramener vraiment le passé tel qu'il devait être conçu. C'est-à-dire, c'était trop onéreux de toute façon de faire des décors, donc il fonctionne en fond vert. Mais les peintures, il les fait faire tout de même aujourd'hui, hein, par un peintre, reprenant des peintures de l'époque qui sont presque de la même époque.
Il s'appelle Jean-Baptiste Marot, le
exactement, peintre. Au pire début 19e siècle, hein, pour des vues de Paris très 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 larges, hein, ce sont des plans de mis ensemble comme ça sur la ville. C'est très scrupuleux parce que c'est le souci du passé aussi, hein. On parlait de cela aussi pour l'architecture, c'est le souci de pouvoir montrer les choses telles qu'elles étaient.
La moindre poignée de fenêtre est authentifiée.
Hein, exactement.
Le moindre objet date de 1792 et pas de 1789, voilà. Par exemple.
Et donc il ne pouvait faire ce film qu'en studio pour ces raisons-là. Perceval Le Gallois, c'est la même chose, hein. Reprendre les miniatures telles qu'elles existent pour le roman de Chrétien de Troyes, c'est forcément le faire en studio avec une ligne épurée, un arbre qui représente une forêt, exactement comme sur les dessins. Oui,
mais si vous permettez, il me semble que dans Perceval, il va beaucoup plus loin, il affiche l'artifice. Alors que dans L'Anglaise et le Duc, l'artifice est présent sans être totalement explicite. C'est peut-être ça qui fait que je suis un petit peu mi-chèvre, mi-lard. Bref.
Vous verrez, à force de le revoir, vous ferez comme moi, vous finirez par aimer ce film. D'accord. Et puis de toute façon, Romère n'avait pas attendu l'an 2000 pour expérimenter l'incrustation numérique. Il l'avait fait dès 1990 avec Ariel Dombal dans un film rare, mais qu'il faut vraiment voir, le clip Amour symphonique. Et oui, parce que Éric Romère réalisait aussi des clips.
Bois ton café, il va être froid. Bois ton café, il va être froid. Tous les matins, tu me le dis. Bois ton café, il va être froid. Mais au fond de mon petit lit de plume toi, je me réveille doucement en m'étirant nonchalamment. Je te dis que je rêve encore. Je dis que c'est toujours l'aurore. Qu'on a le temps de s'éveiller, de faire la grasse matinée. Que c'est si doux de bien dormir, que ça ne devrait jamais finir. Bois ton café, il va être froid. Bois ton café, il va être froid. Tous les matins, tu me le dis. Bois ton café, il va être froid. Mais au fond de mon petit...
Voilà, c'est encore pire que pour la chanson de la fille du corsaire. Hein. Celle-là, vous l'aurez pendant un mois. C'est Rosette, vous en parliez tout à l'heure, Carole Desbarra, muse et compagne de route romérienne, s'il en est, qui chantait en 1986 « Bois ton café », musique Jean-Louis Valero, parole Éric Romère, qui signait donc également la réalisation du clip. Merci beaucoup Carole Desbarra et Philippe Fauvel. L'intégrale des films d'Éric Romère à la Cinémathèque française, c'est du 9 janvier au 11 février à la Cinémathèque française, du 16 janvier au 5 février au Luxor, en espérant qu'elle tournera ensuite dans de nombreuses salles en France. En attendant qu'elle tourne, ses copies, vous pouvez aussi vous faire offrir, pour ceux qui ont raté Noël, le magnifique coffret DVD Blu-ray, l'intégrale en version restaurée, illustrée par Nin Antico chez Potemkin. Il y aura aussi sur Arte deux journées spéciales consacrées à Romère, les 19 et 21 janvier, avec notamment Pauline à la plage et Conte d'été. Vos livres, Carole Desbarra, consacrés à ces deux films, sont disponibles respectivement chez Yellow Now et chez Canopée Édition avec le CNDP. avec et sans accent circonflexe. Les films d'Éric Rohmer, réalisés pour la télévision scolaire, l'ancêtre du CNDP, sont disponibles pour certains dans le coffret Potemkin, mais pour beaucoup aussi dans ce coffret, le laboratoire d'Éric Rohmer, un cinéaste à la télévision scolaire, édité par le CEREN CNDP et dont vous avez conçu le livret, Philippe Fauvel. En attendant peut-être un jour l'édition de votre thèse sur les films de télévision d'Éric Rohmer, des essais de cinéma, vous donnerez le samedi 19 janvier une conférence sur Rohmer, téléaste à la Cinémathèque française, une des multiples rencontres qui émaillent cette rétrospective intégrale et dont vous trouverez le détail sur la page plan large de franceculture.com grâce à Pascaline Bonnet. Enfin, on ne saurait trop vous recommander l'indispensable et passionnante biographie d'Éric Rohmer, co-signée Antoine Debecq et Noël Herp, parue chez Stock, fort utile pour la préparation de cette émission, et vous renvoyer à l'écoute de la Grande Table. Mercredi prochain à midi, Olivia Gesbert évoquera avec ses invités le grand Momo.
Mais au fond de mon petit lit depuis mes doigts, je me réveille doucement en me tirant nonchalamment.
Dring, dring, c'est l'heure de la descente de police.
Copy 2125.
24, we're on it. There's several people here.
Put the club down.
Put it down.
What are you doing with that? Turn around.
Don't push me. Or you can't make first.
Well, don't. You do what you're told is what you do.
Stop it.
Get down here. Sit. So what's going on here? Sit. Stay.
You want to know what's going on? Come on. She honked and she honked. Miss...
Ça fait 30 ans que la télévision américaine propose ce genre d'intervention musclée de la police avec une intrigue inépuisable, des flics pourchassent des voyous à pied ou en voiture, ils les plaquent au sol, ils leur passent les menottes ou les poursuivent encore un peu quand les malfrats leur filent entre les doigts. C'est Cops, une étrange émission entre télé-réalité, cinéma direct et séries expérimentales. Sofine lui consacre un reportage dans son numéro double de décembre-janvier sous le titre de Cocorico Monsieur Poulet, mais enfin Fernando Gonzo, que vient faire Jean Rouche à propos de cette série un rien controversée outre-Atlantique pour ses partis pris résolument pro-police et son racisme supposé, d'autant que Jean Rouche n'est pas le seul dans l'article. On y croise aussi Burt Lancaster, Steven Spielberg, les frères Safdie et même Frédéric Wiseman, Fernando Gonzo.
Bon, c'est parce que c'est une longue et polémique histoire, le rapport entre le cinéma ou l'outil cinématographique et la police, leur enregistrement, leur diffusion, l'utilisation qu'ils en font des images. Et dans cette histoire qui est redevenue très à la mode, notamment depuis qu'aux États-Unis, avec cette recrudescence de conflits raciaux, Charlottesville, etc., certains ont pointé du doigt le fait que les enregistrements que la police fait des interventions sur les routes étaient devenus dans certains états publics et accessibles, et ce qui prouverait ou aurait permis de voir un traitement injuste, sinon parfois cruel, envers les suspects afro-américains. Donc, dans cette histoire, il faudrait surtout parler de cette série, un objet unique, une espèce d'ovni télévisuel, qui était Cops, qui voit le jour en 1989, et qui est une série qui suit un concept très simple, mais aussi radical. À chaque fois, il s'agit de suivre une patrouille de police pendant leur service, avec une toute petite équipe de cinéma, qui va tout filmer. Les appels, les interventions se succèdent, il y a des meurtres, des crimes, souvent ça se passe la nuit, il y a beaucoup d'affaires liées évidemment à la drogue. Tout sans commentaire, sans présentateur, sans aucun effet ajouté. Donc un espèce de morceau de cinéma direct qui s'était introduit dans les foyers des spectateurs américains, ainsi que dans ceux des autres pays qui diffusaient l'émission. Mais il faut dire que la France n'était pas tout à fait une pionnière, parce qu'il va falloir attendre jusqu'à l'arrivée de la chaîne Énergie 12 pour voir ces flics débarquer dans les PAF. Mais c'était jamais sans polémique, parce que depuis le départ, le New York Times avait accusé la série de stigmatiser les quartiers populaires, où la plupart des interventions se déroulent, ou encore de respecter un poil beaucoup trop le point de vue de la police. En revanche, quand on rencontre le créateur de la série, Jean Langlais, qui est un personnage un peu en couleur, on se rend compte qu'il avait une volonté de départ tout à fait différente, et on a presque la sensation d'être devant quelqu'un qui ne savait pas trop ce qu'il avait entre les mains. À l'époque, Langley est un jeune professeur de philosophie et esthétique qui décide d'échanger de travail et de faire des documentaires. Un nouveau métier qui l'amènera, entre autres péripéties, à faire connaissance à Paris d'un cinéaste dont il ne connaît pas les films, Jean Rouch, et aussi, pour les besoins d'un film qui s'appelle Cocaine Blues, à suivre un raid de police. Et cet homme, qui est une espèce plutôt de hippie, qui se méfie des autorités et de toute forme de pouvoir, a une idée. Si tout le monde, comme lui, a une peur viscérale de la police, l'émotion pourrait être très forte pour un spectateur domestique de se sentir embarqué avec eux le temps d'une demi-heure, de façon absolument brute, sans musique, sans commentaire, sans tout ce que l'anglais considère en fait une forme de mépris envers le spectateur. Juste un générique avec les morceaux reggae un peu cultes, déjà Bad Boys. Et pour le pilote, une annonce très succincte de la voix de Bart Lancaster qui dit « Cops parle des vrais gens et des vrais crimes. Tout a été tourné sur place avec les hommes et les femmes qui travaillent pour les forces de l'ordre. » Selon l'anglais, pour le spectateur qui ne connaît pas la série, l'épisode idéal des Cops consisterait en trois travelling de 7 minutes qui racontent trois histoires. Un concept qu'il trouve révolutionnaire à l'époque, jusqu'à ce que, des années plus tard, il découvre l'existence des Law and Order, l'excellent documentaire dans lequel Frederick Wiseman suit la police de Kansas City en 1969 déjà. Et Wiseman, on l'a interrogé et de son côté, il nous dit n'avoir jamais vu de sa vie un seul épisode des Cops. Mais les cinéastes qui ont vu et qui se sont inspirés de la série sont nombreux. Steven Spielberg, effectivement, y compris dans Minority Report. Vince Gilligan, le showrunner de Breaking Bad, avait écrit un épisode pour la série X-Files, directement inspiré de l'émission. Et plus récemment, les frères Safdie, qui définissent Cops comme une introduction mainstream au laissé pour compte de l'Amérique. Donc, logiquement, ils s'en sont servis méticuleusement pour fabriquer leur Good Time. Ils ont même téléchargé 1275 épisodes pendant l'écriture du film et ils les ont organisés par ville. Le résultat, selon eux, un incroyable portrait de l'Amérique. Mais un portrait qui a été perçu comme nocif, par ailleurs. Deux années après le début de l'émission, l'enregistrement des violences subies par Rodney King vont déclencher des émeutes. Et là, on va accuser Cops d'influencer en quelque sorte ceux qui défendent l'attitude de la police, malgré tout. Et les raisons sont évidentes, puisqu'on est embarqué avec eux de façon brute. Quelque part, c'est la police qui devient le metteur en scène de l'émission, en dirigeant les points de vue en permanence. Et il ne faut pas se tromper, cinéma direct, tout ce qu'on veut, mais s'il y a quelque chose qui gêne vraiment la police, ils vont vraiment faire la pression pour que ce soit coupé du montage. Mais c'est surtout la sensation de diffuser une vision radicale, racialement manichéenne, criminel noir, police blanche, qui a fini par pousser certaines associations à protester jusqu'à ce que la chaîne Fox décide de déprogrammer l'émission en 2015. Depuis, c'est une autre chaîne, Spike TV, où l'anglais essaye de prendre en compte ce problème de représentation et il a essayé de filmer plus souvent dans des quartiers à majorité blanche. Conséquence, non, c'est Steve Bannon et tous ses amis qui accusent Cops de vouloir cacher la vérité, entre guillemets. Mais toutes ces polémiques, en quelque sorte, à mon avis, justifient l'intérêt des Cops. Parce que, entre la télé-réalité radicale et le cinéma vérité, voici une série qui, depuis 30 ans, n'arrête pas de montrer ce qui ne va pas dans la société américaine.
Merci Fernando Ganzo. Un saut film avec Alfonso Cuarón en couverture et une passionnante interview sur son chef-d'œuvre Roma est toujours en kiosque. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Élise Leu. L'émission a été préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Romain Masson. La semaine prochaine, après Éric Rohmer, plan large sur un autre grand cinéaste du réel, Alain Cavalier. Le filmeur est à l'honneur de la cinémathèque du documentaire à la BPI du Centre Pompidou pour une rétrospective croisée avec l'américain Ross McElwee. Nous serons, pour notre part, en compagnie de Natacha Thierry, qui prépare un livre et un film sur Alain Cavalier, et avec, évidemment, Charlotte Garçon. D'ici là, vos programmes continuent sur France Culture. Dans un instant, une vie, une œuvre, présentée par Christine Bernard. Oh, what you gonna do?
What you gonna do when you come patient? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Nobody now give you no break. Police now give you no break. That old soldier man now give you no break. Not even your eyes you now give you no break. Say hey, bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Nobody now give you no break. Police now give you no break. That old soldier man now give you no break.